Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les premiers jeudis de chaque mois, de 11h à midi dans le cadre des émissions Les gens d'ici pour l'émission À toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Vous le savez, c'est tous les premiers jeudis de chaque mois. Et je reçois aujourd'hui comme invité Jean Rendet, qui est un archéologue ferroviaire. Voilà, bonjour monsieur Rendet.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir répondu présent pour venir parler de l'archéologie ferroviaire. C'est le thème de cette émission aujourd'hui, dans cette émission À toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Alors, l'archéologie ferroviaire, je suis sûr que il y en a certains d'entre vous, parmi les auditeurs, qui doivent se dire, voilà, qui est bien curieux. On sait ce que c'est l'archéologie, hein, c'est la recherche de traces d'anciennes vies, par exemple les hommes préhistoriques, quand on recherche des ossements, ou encore plus récemment des anciennes demeures qui datent il y a 200-300 ans. Mais l'archéologie ferroviaire, c'est assez curieux, Jean Rendet. Qu'est-ce que c'est au juste ?
Eh bien, c'est la même chose que l'archéologie classique, simplement. Ça s'intéresse aux vestiges et aux traces des anciens réseaux ferrés. Aussi bien les lignes que les ouvrages d'art, les bâtiments. Donc voilà, c'est une plongée dans le passé, en fait, donc pour essayer de retrouver ces vestiges. Voilà.
En fait, ce sont des restes du plan Fraissinet. Le plan Fraissinet qui avait été adopté au début du siècle, enfin, à la fin du siècle dernier, mais du 19e siècle, puisqu'à l'époque les moyens de se déplacer étaient très rudimentaires, la voiture n'existait pas encore, les avions encore moins, donc oui. Le train, on a construit énormément de lignes de chemin de fer, et le plan Fraissinet visait en fait à ce que chaque préfecture, sous-préfecture, canton, chef-lieu de canton soit relié au chemin de fer.
Oui, oui, tout à fait. Si ce n'est que le plan Fraissinet était un plan au niveau national, donc qui concernait plutôt le réseau principal quand même. Alors effectivement, il y a pas mal de lignes qui étaient prévues au plan Fraissinet qui n'ont jamais été réalisées parce que l'apogée du réseau, en gros, qui était dans les années 20-30, il y avait déjà des lignes qui commençaient à fermer, c'est-à-dire que des lignes qui étaient déficitaires. Et donc les départements ont souvent pris le relais pour construire des réseaux souvent à voie métrique, hein, donc au niveau départemental, effectivement, pour irriguer l'ensemble du territoire, comme vous le disiez, au niveau du chef-lieu de canton, voire encore plus petit. Voilà.
La voie métrique, c'est quoi au juste ?
Les voies métriques, c'est des voies qui sont à écartement de 1 mètre, donc les voies étroites. Alors, disons que c'est le principal écartement des voies étroites, mais on trouve en fait dans les petits réseaux locaux des voies de 0,60 m, 0,66 m, 0,80 m, des voies de 1,10 m, des voies de 1,30 m. Donc voilà, c'est assez varié, mais enfin dans l'immense majorité des cas, effectivement, les voies étroites étaient à écartement de 1 mètre.
Par rapport à l'écartement standard qui est de
1,431 m de mémoire, enfin c'est un peu plus de 1,40 m.
Vous avez créé un site internet qui s'appelle archéologieferroviaire.free.fr. Qu'est-ce qu'on y retrouve sur votre site ?
Alors, en fait, moi, mon travail, il est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'en fait, je fais de la recherche depuis chez moi, depuis mon ordinateur. Mon but, c'est de retrouver en fait les tracés précis de toutes les lignes du réseau ferré français. C'est un travail en fait qui n'a jamais été fait de manière exhaustive. On en parlera un petit peu après. Il y a eu ponctuellement effectivement quelques archéologues ferroviaires qui ont pu dans un secteur donné retrouver le tracé d'une ligne, mais ça n'a jamais été fait donc de manière exhaustive au niveau national. Donc moi je m'intéresse surtout en fait au tracé en tant que tel. Par contre, avec le travail que je fais, Donc des archéologues de terrain peuvent effectivement retrouver plus facilement sur le terrain les traces des ouvrages. Voilà. Donc moi, c'est un travail essentiellement cartographique et photographique.
Parce qu'il est vrai que ces lignes qui disparaissent, qui sont fermées, pour certaines, soit sont carrément abandonnées à la végétation et la végétation reprend ses droits. Il faut avoir un œil exercé pour voir qu'il y avait des trains qui passaient là. Je peux le dire, hein, je suis moi-même archéologue ferroviaire, il m'arrive d'aller sur le terrain. Et effectivement, il faut vraiment avoir un œil exercé pour se dire, bah oui, là, il y avait le train qui passait. Et puis, d'autres lignes disparues qui deviennent à ce moment-là des chemins forestiers, voire des sentiers de grande randonnée. Et d'autres encore qui sont transformés en route. Voilà, vous savez, vous, quand vous êtes à bord de vos voitures, parfois vous passez à des endroits où jadis il y avait des trains qui passaient, et donc l'archéologue ferroviaire recherche ces traces.
Tout à fait. En fait, les cas que vous citez, donc de routes, de voies vertes, hein, puisque c'est il y a pas mal d'anciennes lignes qui ont été transformées en voies vertes.
Aussi.
Donc, c'est vraiment le cas idéal pour retrouver des tracés, parce que donc les emprises ont été préservées, donc même si elles ont été transformées. Ce qui est beaucoup plus compliqué, en fait, c'est pour des lignes qui ont complètement disparu en fait du paysage, c'est-à-dire soit effectivement en zone rurale où maintenant ben voilà c'est des champs. Alors en plus il y a eu le remembrement qui est passé là-dessus, donc il n'y a plus aucune trace sur le terrain. Et là où c'est très compliqué aussi, c'est dans les zones urbaines ou périurbaines, c'est-à-dire où les lignes à l'époque où elles étaient construites, donc passaient donc dans la campagne, et où maintenant en fait donc c'est des banlieues de grandes villes, et où en fait il n'y a plus aucune trace non plus de ces lignes, et c'est beaucoup plus difficile à retrouver effectivement.
Justement, on va en venir à votre atlas dans un instant, parce que c'est vrai que des fois c'est difficile à trouver. On a des à peu près, on retrouve des anciennes cartes routières où les lignes sont dessinées, mais c'est vrai que moi d'ailleurs en tant qu'archéologue ferroviaire, des fois j'ai cherché et puis tout d'un coup, eh bien je trouve un pont. Voilà, où il y a plein d'arbres, il y a plein de ronces, il y a un petit cours d'eau qui passe sous un pont, et finalement ce pont, eh bien, a un écartement, a une grandeur suffisante pour le passage d'une voie, et là je dis bingo, j'ai trouvé.
Oui, tout à fait, effectivement. Donc là, c'est les bonnes surprises de la recherche archéologique. Alors effectivement, il y a donc les ouvrages, hein, les ouvrages d'art, ce que aussi beaucoup d'entre nous peuvent voir. Du moins, se poser la question, c'est les anciens bâtiments de gare qui sont souvent assez caractéristiques, qui ont été transformés en maisons individuelles ou autres. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est la toponymie, hein, c'est-à-dire que dans des secteurs où il n'y a plus aucune trace, mais on tombe sur une rue de la gare ou rue du petit train. Donc ça, c'est aussi ça donne des indices, quoi. Mais dans tous les cas, c'est quand même c'est pas le cas le plus fréquent. Pour retrouver certains tracés, c'est pas suffisant. Alors en fait, vous parliez de cartes routières, donc je dirais que la base de départ en fait de mon travail, c'est les anciennes cartes Michelin, donc des années 20-30, hein, donc sur lesquelles tous les réseaux étaient reportés, hein, y compris donc les petits réseaux métriques qu'on appelait, on parlait souvent de tramways, bien que ce ne soit pas des tramways tels qu'on les connaît maintenant, hein, c'était des petits chemins de fer à vapeur. Mais ce qu'il y a, ces cartes, elles sont à l'échelle du 1/200 millième, donc c'est quand même une échelle très petite, donc ça permet juste déjà de savoir à peu près dans quel secteur passaient les lignes, quoi. Mais moi, à partir de là, donc une fois que j'ai un peu circonscrit le secteur donc où passait la ligne, je vais beaucoup plus dans le détail. Et donc là, je travaille en fait sur le site de l'IGN, donc le géoportail, qui présente l'avantage de fournir des cartes purement géographiques, hein, donc à toutes les échelles, mais aussi deux sources de documents qui sont extrêmement intéressantes. C'est d'une part les cartes parcellaires, les cartes cadastrales, Parce que si bizarre que ça paraisse, pour des lignes qui ont disparu depuis presque 100 ans maintenant, hein, puisque bon, il y a des lignes qui ont été déposées juste après la guerre de 14, hein, même qui ont été arrêtées avant la guerre de 14. Et en fait, on retrouve encore sur des états parcellaires les emprises de ces lignes. Alors, des fois, c'est complètement morcelé, il y a des petits bouts ou alors des formes de parcelles qui laissent effectivement penser que la ligne passait à cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Et l'autre source d'enseignement qui est aussi intéressante, c'est les vues aériennes anciennes qui sont aussi disponibles sur le site de l'IGN. Donc c'est c'était avant sur donc le géoportail, maintenant l'IGN a créé un site spécifique pour les vues anciennes qui s'appelle Remonter le temps. Et donc là, ces vues en fait en général remontent à la Deuxième Guerre mondiale, enfin donc à la fin des années 40. Mais même pour des lignes qui avaient disparu 20 ans plus tôt, assez souvent, on trouve encore les traces n'ont pas complètement disparu sur ces vues. Donc voilà, c'est vraiment les deux sources de documents les plus intéressantes qui permettent de reconstituer les tracés de ces anciennes lignes.
On a Sibic, on commence à avoir des messages des auditeurs hein, qui peuvent nous envoyer des messages en direct sur le site internet www.idfm98.fr. Sibic, il a été déjà intervenu dans l'émission, la dernière émission le mois dernier. Sibic qui est le nom d'une locomotive, hein, donc on voit sa passion. Et qui nous dit qu'il est archéologue ferroviaire également et qui remercie beaucoup, qui vous remercie beaucoup Jean Rendez parce que il nous dit que votre site lui sert énormément justement pour ses recherches archéologique.
Bah, j'en suis heureux, effectivement. C'était un des publics que je visais. Hein. C'est effectivement les gens qui partent à la recherche des traces des anciennes lignes. Et, bon, effectivement, je pense que ce site, parce qu'effectivement, il donne des tracés très précis, bon, permet de faciliter les recherches. Alors après, il ne faut pas non plus se leurrer. Enfin, il y a des endroits où il n'y a plus aucune trace, donc aucune trace ni aucun moyen de les trouver. Bon, dans ces cas-là, je le signale tout le temps, hein, je dis tracé à certains dans tel secteur. Après, effectivement, un travail de terrain peut permettre éventuellement de trouver donc d'autres éléments qui permettent de confirmer ou d'infléchir le tracé. Et j'en profite pour dire que je suis tout à l'écoute, effectivement, de ces archéologues de terrain qui, s'ils ont des éléments à apporter, moi je suis tout à fait preneur, effectivement, c'est un travail un peu coopératif hein, entre le travail du cartographe et puis le travail donc des archéologues de terrain, et je pense qu'effectivement l'un et l'autre s'enrichissent mutuellement.
Ouais. Tout à fait. Donc je rappelle le site, puisqu'on me le demande, hein, archeoferroviaire.free.fr, et vous avez une rubrique contact sur le site qui vous permettra donc de contacter Jean Rendez. Toujours donc sur cette archéologie ferroviaire, ces recherches de traces d'anciennes lignes, sur votre site justement, vous avez fait le mode d'emploi et puis vous avez découpé la France par région en fait. Hein.
Oui, alors en fait, bon, là c'est un petit peu arbitraire. Bon, j'ai découpé par grande région. Ça c'est surtout pour pas avoir, enfin donc sur un écran d'ordinateur. Pour pas avoir un menu, une colonne, si vous voulez, correspondant au menu déroulant, qui soit extrêmement longue. Donc en fait, en gros, j'ai découpé l'hexagone en cinq grandes régions, hein, nord, est, ouest, sud-ouest et sud-est. Bon, et donc dans chaque grande région, j'ai ensuite fait un découpage par région administrative. Alors comme j'ai commencé mon site en 2013, je m'en tiens aux anciennes régions administratives, hein, donc vous ne retrouverez pas les nouvelles régions qui ont été créées au début de cette année. Par contre, bon, enfin, tout le monde a en tête aussi les régions donc telles qu'elles existaient jusqu'en 2015. Et puis donc dans chacune de ces régions, je travaille là donc par département, c'est-à-dire en fait pour tous les chaque département, je classe toutes les petites lignes, les lignes donc à voie métrique essentiellement, et pour chaque région, je fais une rubrique réseau principal, donc qui correspond au réseau des grandes compagnies donc qui ont été absorbées par la SNCF donc en 36-37. Donc je pense que bon, c'est un plan de classement qui vaut ce qu'il vaut, mais qui permet de se retrouver assez vite. Sachant que en plus, donc il y a une rubrique recherche qui permet, si vous tapez par exemple le nom d'une d'une gare, de tomber tout de suite sur l'article qui fait référence effectivement à cette gare. Donc c'est un travail assez de longue haleine, hein, et donc je précise tout de suite, bon, les archéologues qui sont allés sur mon site s'en sont rendus compte, hein, que donc j'ai pas du tout fini encore la France, hein, donc j'ai commencé par le Grand Ouest, parce que donc je suis moi-même donc en Bretagne, hein, j'ai fait la Bretagne, la Basse-Normandie, et je tourne en passant par le Sud-Ouest, le Sud-Est, et donc je finirai par le Nord. Donc actuellement, je suis rendu dans la région Rhône-Alpes, hein, donc j'ai fait, disons, une bonne moitié du territoire français, quoi.
Oui, et puis Paris ne se fait pas en un jour, bien sûr. Hein.
Alors Paris, enfin juste, je rebondis sur ce que vous dites, parce que curieusement, en fait, bon, l'Île-de-France, bon, il y a beaucoup de réseaux, mais c'est pas la région où les réseaux ont le plus disparu finalement, parce que donc les bon, ça desservait un territoire très dense, hein, au niveau urbain, et finalement il y a assez peu de lignes qui ont complètement disparu. Donc c'est pas forcément là que ça sera le plus compliqué, mais bon, j'ai pas encore attaqué la région Île-de-France, donc moins optimiste après.
Il y a déjà deux lignes, hein, pour l'Île-de-France, et j'ai envie de dire la célèbre ligne Massy-Palaiseau-Chartres. Je dis célèbre, voilà, parce que c'était une ligne où a été testé l'aérotrain de Jean Bertin notamment. Et puis vous avez aussi Bourron, Marolles, Malesherbes. Voilà, donc
donc ces lignes qui sont en fait à cheval sur la région Île-de-France et la région Centre, et comme j'ai étudié finalement la région Centre, j'ai étudié ces lignes, et dont effectivement celle que vous citez là, qui remonte jusqu'à Massy, et en fait dont l'emprise en fait devait même aller jusqu'aux portes de Paris, et a été réutilisée pour le passage du TGV Atlantique.
Exactement. Ouais. Exactement. En tout cas, on a un beau pays, ma France, et c'est comme le dit justement Jean Ferrat, c'est ce qu'on va écouter tout de suite.
D'accord.
Parle de train sur IDFM Radio Anguin tous les premiers jeudis de chaque mois. Et en ce 1er décembre, pour cette émission à toute vapeur, je reçois aujourd'hui Jean Rendet, qui est archéologue ferroviaire. Vous avez donc un site internet dont je rappelle l'adresse, hein, archeoferroviaire.free.fr. C'est une base de données, un atlas des lignes de chemin de fer disparues. Et avant de reparler plus en détail de votre site internet, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ces lignes disparues, justement. Alors, ce qui a provoqué la disparition de ces lignes, c'est la voiture, notamment.
La voiture et puis le bus, hein, en fait, hein, donc c'est ces lignes en fait très très vite, donc pour les dernières construites, hein, donc dans les années 10, bon, il y en a qui ont été construites encore après, mais se sont avérées très très vite déficitaires, hein, donc c'était essentiellement effectivement la concurrence de la route, la voiture, mais je pense plutôt dans ces années-là les transports collectifs, donc les autobus, et puis le transport de marchandises par route.
Et c'est comme ça donc que les lignes ont petit à petit fermé. Donc
oui.
Voilà, malheureusement, dans les recherches, moi ce que je disais tout à l'heure avant la pause musicale, je suis moi-même archéologue ferroviaire, et j'ai recherché une fois une ligne, alors je me souviens plus vraiment l'endroit exact. Toujours est-il que il restait encore quelques bouts de lignes qui n'avaient pas de voie, qui n'avaient pas été démontées, et là j'ai trouvé un vieux locotracteur complètement abandonné, malheureusement qui a été visité, vandalisé. Il n'y avait plus de vitres dans le cotracteur, il n'y avait plus les manettes, etc. Mais voilà, on fait des trouvailles aussi, hein, quand on fait les recherches sur le terrain.
Oui, enfin, je pense que moi-même, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas archéologue de terrain, donc effectivement, tout ce qui est équipement, matériel, motrice, wagon, effectivement, c'est pas des choses qu'on voit sur les cartes ou sur les photos. Par contre, je pense que ça doit être quand même assez rare de tomber sur des choses comme ça. Enfin bon, ça parlerait peut-être mieux que moi, mais bon, autant des bâtiments, c'est bon, ça reste. Par contre, effectivement, du matériel, ça devait être assez exceptionnel, quand même, je pense.
Ouais. C'était un locotracteur, oui, qui était tout seul, c'est vrai. Bon, voilà, mais on fait des trouvailles. J'ai une question de Sibic qui continue donc à nous poser des questions. Hein. N'hésitez pas, www.idfm98.fr, et qui nous demande, n'y a-t-il pas un problème de propriété privée lorsqu'on fait de l'investigation sur le terrain?
Ça, j'aurais du mal à vous répondre. Bon, effectivement, on peut pas pénétrer dans les propriétés privées sans autorisation des propriétaires. Alors, effectivement, le problème se pose surtout pour les toutes petites lignes, dont les emprises, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, elles sont toujours représentées encore, dans pas mal de cas sur les plans cadastraux, mais maintenant elles appartiennent à des privés, quoi. Bon, par contre, c'est moins vrai effectivement pour les grandes lignes, enfin les lignes du réseau principal, hein, qui souvent sont encore propriétés des départements, quoi. Mais là, c'est vrai que je pourrais pas trop en parler, mais je pense effectivement le cas doit se présenter quand même assez souvent, oui, de passage dans les propriétés privées. Donc a priori, il faut le faire avec l'accord du propriétaire. Bon, maintenant, je pense que quand on est en pleine campagne, c'est pas forcément un problème. Ça serait plus effectivement dans des zones proches des zones urbaines, quoi. Voilà.
Bien sûr. Ouais. En ce qui me concerne, alors, vous avez donné tout à l'heure votre situation géographique. Moi, en ce qui me concerne, je suis à cheval sur l'Île-de-France, la Normandie. Voilà, j'habite aux portes de la Normandie, tout en étant en Île-de-France, et je vais facilement en Normandie. Moi, c'est toujours devenu pour la plupart des chemins de randonnée, donc qui sont accessibles à tout le monde. On a aussi des chemins, des endroits, comme je disais tout à l'heure, où là, la végétation a repris ses droits, donc c'est dans des forêts, là aussi, il n'y a pas trop de problèmes. Ce qu'il faut faire attention surtout, c'est qu'il y a certains ponts qui sont vraiment vétustes. Il y en a un, par exemple, où il faut faire attention où on met les pieds, parce qu'on risque de passer au travers tellement le bois, les planches sont pourries. C'est surtout ça le problème, mais c'est vrai que moi, j'ai pas été vraiment confronté dans mes recherches à des problèmes de propriété privée. Après, s'il y a un château d'eau, par exemple, que j'ai vu sur une ancienne ligne qui reliait Évreux à Dreux. Il y a un château d'eau qui, puisque les locomotives à vapeur, dans quasiment toutes les gares, il y avait un château d'eau pour pouvoir faire le plein. Bon, ce château d'eau est dans une propriété privée. On demande au propriétaire s'il nous donne l'autorisation de pouvoir rentrer. S'il dit oui, tant mieux. S'il dit non, tant pis. Et puis voilà.
D'accord, oui. Donc comme je vous dis, j'ai fait très peu d'archéologie de terrain, mais je suis allé notamment l'hiver dernier avec François Librini, alors qui est associé à mon site. Hein. Bon, lui ne fait pas, ou très peu, parce qu'il n'a pas vraiment le temps d'archéologie sur les cartes. Par contre, c'est un vrai archéologue de terrain. Il a fait donc plusieurs reconnaissances de lignes. Donc les liens sont indiqués, hein, donc sur le site. Et par exemple, on est allé donc l'hiver dernier sur une ancienne ligne du PLM qui était la ligne Brioude-Saint-Flour, hein, donc dans le à cheval sur la Haute-Loire et le Cantal. Et c'était une ligne en fait que le PLM avait construite pour concurrencer un petit peu la ligne du Paris-Orléans, hein, donc qui descendait sur Béziers. Et en fait, il y a beaucoup de tunnels sur cette ligne, donc c'est quand même de la montagne, la moyenne montagne. Et bon, beaucoup de ces tunnels en fait ont été transformés en fromagerie, parce que c'est bon, il y a des conditions de température qui sont parfaitement adaptées, quoi. Et là, complètement inaccessible. Par contre, effectivement, on a notamment pu traverser un tunnel assez long, hein, plusieurs centaines de mètres. Donc qui était ouvert, qui a été dans le passé sûrement une fromagerie, parce qu'il y avait encore des claies complètement écroulées à l'intérieur. Là, c'est vrai qu'il faut être quand même un petit peu prudent, parce que bon, on avait beau avoir une lampe torche, on voyait pas grand chose. Il y avait pas mal de barres de fer dans tous les sens, des trous de l'eau qui coulait. Donc bon. Je pense qu'effectivement, c'est pas toujours très très facile. Puis on sait jamais sur quoi ou sur qui on va tomber dans cet ouvrage comme ça. Mais bon, Je pense que le problème se pose aussi pour les ouvrages aériens, peut-être des ponts ou des ponceaux qui sont plus utilisés. Effectivement, il faut être quand même un petit peu prudent, quoi.
Alors, il y a certains ponts. Moi, le pont que je donne en exemple, c'est à Garennes-sur-Eure. C'est sur une ligne qui est reliée Rouen à Orléans. Ce pont-là, donc, est vraiment vétuste. Il y en a d'autres, toujours sur cette ligne, mais plus du côté de Rouen. Là, en revanche, les autorités ont clôturé pour ne pas qu'on traverse le pont. Alors, justement, si vous avez un pont qui est clôturé, ne passez pas par-dessus les barrières parce que c'est pour votre sécurité. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant quand même de se dire on a un joli pont, mais on peut pas aller dessus. Mais voilà, s'il arrive un accident, ça, il faut faire attention sur ce sujet-là. Sibic, ouais, qui nous dit que lui, il est rentré dans un tunnel aussi sur une ligne qui reliait Gisors. J'arrive pas à bien lire. Ah oui, je connais la ligne. Oui, c'est voilà, le nom, je l'ai. Enfin, il me reviendra tout à l'heure. Mais ça part vers le nord. En tout cas, ça part de Gisors et ça va vers le nord. D'accord. Et il y a un tunnel où effectivement, j'ai appris ça. Il m'a dit, je l'ai visité. Il est très glauque. Voilà.
Oui, tout à fait. C'est le mot qui convient. On sait pas du tout ce qu'on a trouvé dedans. Je reviens juste sur les ouvrages d'art aérien, donc les ponts et les viaducs. Il y a un département qui est d'une richesse énorme en matière d'ouvrages d'art, c'est les Côtes d'Armor, hein, où donc c'est un département qui est très très vallonné, notamment la zone côtière. Et donc il y avait un ingénieur très réputé à l'époque qui s'appelait Louis Harel de Lannoy, hein, donc qui a construit des ouvrages mais splendides, vraiment des magnifiques, donc pour le passage du train. Et malheureusement, ces ouvrages, mais enfin, c'est des ouvrages gigantesques. Hein. Il y a des ouvrages de plusieurs centaines de mètres qui passaient à 30-40 mètres de hauteur. Et en fait, donc plusieurs de ces ouvrages ont été déjà démolis parce qu'il n'y avait pas les crédits effectivement pour les entretenir. Et certains donc sont maintenant existent encore, mais sont interdits au passage, y compris des piétons, quoi. Donc c'est vraiment tout un patrimoine là qui est en train de disparaître et qui est pourtant une grande richesse, quoi. Ouais.
Tout à fait, ouais. C'est dommage quand même. Tout à l'heure, on parlait des lignes qui ont été construites et puis après qui ont fermé. Parce que voilà, il y a eu la concurrence de l'automobile, la concurrence des bus, mais il y a certaines lignes aussi dont on a commencé la construction et puis tout d'un coup on a arrêté cette construction.
Alors bon, enfin moi pour les tous les cas dont, que je connais, alors c'est les travaux ont été interrompus, enfin essentiellement par les guerres, hein, c'est-à-dire qu'il y a des lignes qui ont été dont la construction a commencé avant 1914, qui ont été interrompues en 1914. Je pense par exemple, enfin je prends un exemple parmi d'autres, hein, une ligne dans les Deux-Sèvres qui allait de Saint-Mexant à Saint-Laure, à côté de Coulanges-sur-le-Tise. Cette ligne donc a été, toute la plateforme a été faite complètement, toute l'infrastructure a été réalisée. Il y a eu la déclaration de guerre, donc les travaux ont été interrompus. Et en fait, juste au sortir de la guerre, les travaux n'ont jamais été terminés parce que déjà la compagnie considérait que la ligne serait déficitaire. Et il y a pas mal d'exemples, hein, y compris sur le réseau principal. Il y a une ligne aussi assez célèbre, donc entre la Haute-Loire et l'Ardèche, hein, donc qui devait rejoindre à partir du Puy Aubenas. Et en fait, cette ligne donc a été construite pour moitié. Alors en plus, bon, c'est une région très montagneuse, hein, donc avec beaucoup d'ouvrages. Il y a un tunnel qui a été un grand tunnel qui a été construit, un magnifique viaduc, hein, le viaduc de Recoumène. Et en fait, les travaux ont été interrompus parce que c'est pareil, la compagnie, donc c'était le PLM à l'époque, hein, donc une grande compagnie, mais a considéré que c'était un gouffre financier et que jamais, de toute façon, il trouverait une rentabilité. C'est d'ailleurs un ouvrage, une ligne donc fictive puisqu'elle n'a jamais existé complètement, mais qui est exceptionnelle aussi à un autre titre, hein, sur la partie donc qui était restée en projet, hein, donc qui descendait sur du plateau dans la vallée vers la vallée du Rhône. il y avait un dénivelé très important en fait donc à franchir et donc les ingénieurs de l'époque avaient conçu une spirale. Alors c'est un ouvrage enfin assez hallucinant en termes de forme, donc où la ligne faisait plusieurs tours en fait donc à l'intérieur donc de la essentiellement en tunnel, oui. Pour pouvoir, alors il perdait je sais pas combien, c'était plusieurs centaines de mètres d'altitude donc sur une distance très restreinte, hein. Donc ça je l'ai repéré sur mon site, hein, donc on peut le voir dans sur le site. Par contre c'est un ouvrage qui est resté à l'état de projet, donc là il y a aucun vestige malheureusement.
En tout cas, c'est très célèbre, oui. J'avais entendu parler de cette spirale. Sibi qui précise, donc c'était, on parlait d'une ligne tout à l'heure au départ de Gisors, donc je ne trouvais plus. C'est de Gisors à Beauvais. D'accord. Merci Sibi pour la précision. Alors effectivement, donc comme vous disiez, c'est des lignes où on a parfois commencé quand même la construction, mais que voilà, on a arrêté faute de trésorerie, etc. Et voilà, oui, tout à fait. Vous parliez en début d'émission qu'il y a aussi des réseaux secondaires plus petits. Alors là aussi, il y a des lignes qui devaient être ce qu'on appelait le tramway, comme vous disiez tout à l'heure, en début d'émission, mais qui ont aussi... le projet n'a pas vu le jour.
Complètement. Bon, il faut se remettre aussi dans le contexte, hein, de l'époque. Donc, bon, la fin du 19e et tout début 20e, en fait... Bon, il faut voir que les campagnes, bon, il y avait pas la voiture, il y avait pas le bus, donc les gens, ils se déplaçaient à pied ou en char à vent, hein. Donc, on venait directement de là, quoi. Et en fait, bon, c'est vrai que tous les bourgs voulaient avoir le train chez eux, quoi. Oui. Donc, ce qui fait qu'en fait, bon, alors, il y avait des discussions épiques au sein des conseils généraux bon, les habitants faisaient des pétitions pour que le train passe chez eux. Des conseillers généraux plus influents réussissaient effectivement à attirer la ligne donc dans leur canton, dans les bourgs de leur canton. Mais c'était souvent un petit peu au mépris de toute considération de rentabilité. C'est-à-dire que bon, il fallait faire venir le train parce que c'était un facteur de progrès. C'est indéniable. Comme je dis, c'est vraiment, je pense, que ça a été le facteur essentiel de progrès au début du fin 19e, début 20e. Hein. Mais il y a effectivement beaucoup de ces petites lignes qui ont été construite sans vraiment faire une étude de marché sérieuse, si je peux dire, et donc qui se sont trouvés très vite donc déficitaires. Donc il y a des départements qui ont été très sobres, hein. Certains départements n'ont construit aucune ligne métrique, hein. Je pense par exemple au département du Gers, hein, donc dans le sud-ouest, où il n'y a aucun réseau métrique, hein. Donc c'est dans d'autres pour l'Ouest, par exemple, que ce soit dans la Sarthe, le Finistère, le Morbihan, il y avait des réseaux départementaux qui faisaient jusqu'à 500 km, hein, donc c'était vraiment énorme, quoi. Et ça, c'est pour ne parler que des petites lignes à voie métrique, sans parler du réseau principal où plein de lignes effectivement ont disparu déjà.
Jean Rendez, on va s'interrompre une nouvelle fois avec Olivia Ruiz qui traîne des pieds.
IDFM, 98FM.
Troisième partie de cette émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Je vous rappelle que notre invité est Jean Rendez, archéologue ferroviaire. Il a un site internet, hein, je vous rappelle l'adresse, c'est archeoferroviaire.free.fr. On continue donc notre découverte de l'archéologie ferroviaire. Pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, eh bien sachez que c'est la recherche de traces d'anciennes lignes de chemin de fer qui ont existé jadis et qui ont disparu, certaines même dont la construction a commencé et puis on a stoppé, c'est ce qu'on disait juste avant cette pause musicale, en raison des problèmes économiques ou à cause de l'arrivée de l'automobile et des bus qui a fortement concurrencé donc ces lignes de chemin de fer. Dans les recherches, moi, je disais tout à l'heure en début d'émission, puisque je suis archéologue ferroviaire aussi, je vais sur le terrain, je vais chercher des choses et j'ai trouvé une vieille locomotive, un vieux locotracteur qui était abandonné. Vous, Jean Rendez, vous avez des anecdotes aussi comme ça ?
Oui, alors en fait, c'est des anecdotes cartographiques, hein, puisque ma recherche donc est essentiellement cartographique. Mais c'est vrai que je suis, ça m'est arrivé de tomber sur des lignes dont on ne trouvait trace nulle part. Plusieurs exemples, mais par exemple dans le Loir-et-Cher, donc je suivais une ligne, donc je retraçais une ligne donc disparue. Sur la planche cadastrale, hein, donc sur les plans cadastraux, où l'emprise de la ligne était assez facilement repérable. Et puis, donc c'est une ligne qui était connue. Hein. Et puis, à un endroit, je vois sur le plan cadastral une espèce d'embranchement, mais qui faisait quand même près de 10 km, hein, donc c'est en pleine Sologne. Hein, alors je regarde sur les. Alors il n'y avait pas de village au bout, il n'y avait rien du tout. Hein, c'est en pleine forêt solognotte. Je regarde partout et en fait, il n'y a aucune trace sur le terrain. Enfin, je regarde sur les vues aériennes actuelles, on ne voit strictement rien. Et pourtant, c'est indéniable. Enfin, les courbures montrent clairement qu'il y avait une voie qui était à cet endroit-là. On la repère sur des vues aériennes anciennes, donc. Justement, en classifiant un petit peu les vues, je me suis dit que cette ligne a été déposée avant 1933. Donc c'est alors on a interrogé donc la mairie de la commune donc où se trouve cette ligne. Personne n'a jamais entendu parler de quoi que ce soit. Donc je suppose, mais j'ai absolument rien trouvé malgré mes recherches, qu'il devait s'agir d'une exploitation forestière. Qui avait fait un embranchement donc pour évacuer effectivement la production de bois. Mais c'est il n'y a aucune autre trace que effectivement ces traces sur un plan cadastral, quoi. Alors il y a d'autres exemples un peu plus connus, notamment aussi dans Sologne d'ailleurs, une ligne qui desservait un camp donc de prisonniers en fait, donc où étaient donc avaient été regroupés des prisonniers et des juifs avant d'être envoyés donc en camp de concentration, hein, donc c'était un petit peu effectivement comme tous les fameux camps qu'il y a eu donc au nord du Loiret, hein, vers Pithiviers.
Et Baume-la-Rolande, oui.
Voilà. Donc là, c'est pareil. Je suis tombé là-dessus par des traces donc sur un plan parcellaire où je me dis il y a un embranchement. Et alors après, par contre, là, j'ai cherché sur Internet et j'ai retrouvé quand même quelques éléments sur ce camp de la Matotte, hein, qui s'appelait donc à côté de Cerdon, hein, donc sur la ligne qui près de la ligne qui allait des Bordes, enfin de Gien à Bourges. Hein. Autre exemple intéressant, alors là c'est plus près de chez moi, donc c'est dans le Finistère, une ligne qui a été construite en fait pour le mur de l'Atlantique, hein, donc il y avait dans la baie d'Audierne qui est une très très grande baie avec beaucoup de galets, donc les Allemands avaient créé une usine de concassage des galets pour effectivement la construction du mur de l'Atlantique. Et donc ils avaient créé une ligne donc qui rejoignait la ligne de Quimper à Pont-l'Abbé, une ligne de 12 km quand même. Hein. Et cette ligne en fait elle a servi entre 1942 et elle a été terminée, enfin son exploitation a cessé en 1947, c'est-à-dire que bon cette usine a servi après pour la reconstruction aussi. Mais c'est pareil, alors là sur le terrain, vous voyez rien du tout, quoi. C'est on voit encore l'usine de concassage des galets, il reste c'est des ruines assez gigantesques d'ailleurs, mais la ligne, rien du tout. Donc c'est des découvertes assez assez intéressantes en fait. Voilà, donc quelques exemples.
Voilà, pour en effet ces anecdotes. On a Sibic aussi qui nous donne une anecdote et qui nous dit que il existe des anciens tunnels où passait le train jadis, qui ont été bouchés à une extrémité et puis qui servent aujourd'hui de réservoir d'eau. D'autres qui ont été carrément abandonnés, ensablés, et qu'on a laissé s'ensabler. Et voilà, il dit qu'il a retrouvé des traces comme ça de ces tunnels.
Oui, tout à fait, oui. Ah, oui, ça rejoint un petit peu, effectivement, les fromageries dont je parlais tout à l'heure. Enfin bon, tout est utilisé après par pour d'autres activités, quoi.
On nous demandait aussi, là j'ai un message de William qui nous parle de la ligne Pau-Canfranc. Il demandait si vous aviez fait quelques recherches sur cette ligne aussi.
Alors, donc la INPOC en France, c'est bon, effectivement, elle est sur mon site, hein, donc c'est une ligne qui est qui a été en service, hein, donc qui est bien connue. Il y a donc moi, je l'ai jamais parcouru sur le terrain. Par contre, le tracé est très facilement repérable, hein, donc pour cette ligne. Alors, il y a eu des projets de réouverture, mais en fait, qui conduiraient à faire des travaux très importants, hein, notamment vers le son port. Mais je crois pas que, enfin, au jour d'aujourd'hui, que ces projets bon, soient très avancés. Hein. Enfin, c'est bon, l'éternel problème de des traversées des massifs montagneux et notamment des Pyrénées. Hein, donc, bon, le tracé, on le retrouve, hein, donc sur mon site, sans problème. Par contre, moi, je n'ai jamais parcouru cette ligne donc sur le terrain.
Voilà, donc pour la réponse de William.
Voilà.
Donc, n'hésite.
Ouais. Juste, enfin, oui. Pour parler de tracé transpyrénéen, il y avait aussi un grand projet qui avait commencé à se faire, hein, donc pour une traversée des Pyrénées, mais alors plus à l'est, hein, donc qui devait partir de Saint-Giron, donc dans l'Ariège, et rejoindre Lérida, donc en Catalogne. Cette ligne a été construite pour une bonne partie côté espagnol, enfin jusqu'à la Pobla de Segur, qui est juste au contrefort des Pyrénées. Et côté français, en fait, il y a eu effectivement un premier bout qui a été fait, mais par contre le tunnel donc qui devait passer sous le col de Salaou n'a jamais été construit. Mais on trouve encore des traces donc en Ariège de cette ligne, quoi. C'était l'endroit des Pyrénées où les montagnes sont les plus étroites, c'est-à-dire en fait où le passage aurait été le plus facile. Mais cette ligne n'a jamais été faite.
Faute de financement, probablement.
Bah, tout à fait, pour les mêmes raisons. Bon, c'est quand même des ouvrages extrêmement coûteux, hein, quand on voit les ouvrages d'art qu'il y a. Bon, c'est tunnels, c'est viaduc, hein, notamment dans les lignes de montagne, ça coûtait une fortune, quoi. Donc bon, bah les compagnies à un moment se sont rendues à la raison, et puis on a arrêté les frais, quoi, c'est le cas de dire, quoi.
On va s'interrompre une dernière fois, Jean Randé, et puis on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission Gold, ouais. Ville de Lumière, c'est tout de suite sur IDFM.
IDFM Radio Anguin vous souhaite de joyeuses fêtes.
Dernière partie de cette émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Mon invité, Jean Randé, archéologue ferroviaire, la recherche de traces d'anciennes lignes de chemin de fer qui ont existé jadis et qui n'existent plus aujourd'hui. Il nous reste très peu de temps, Jean Randé. Donc pour terminer, quelques questions d'auditeurs encore. On nous demandait, là et là c'est William qui pose cette question, comment fait-on pour devenir archéologue ferroviaire?
À ma connaissance, il n'y a pas de formation spécifique. Bon, je crois que, enfin bon, pour la partie, ce que je fais, hein, donc en termes de cartographie, bon, ce qui est important effectivement, c'est de savoir lire une carte et puis essayer d'interpréter des photos aériennes, mais ça s'apprend un peu sur le tas, hein. Donc d'ailleurs c'est assez marrant parce que donc moi j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a à peu près il y a 3-4 ans, quoi. Au début j'allais très très lentement, je me disais bon au rythme où je vais j'en ai pour des dizaines d'années à boucler tout le territoire français. Et puis en fait au fil du temps, l'œil s'aguerrit aussi, hein. Il y a des choses qu'on repère beaucoup plus vite. Et il y a à peu près 35 000 kilomètres de lignes, hein, qui sont à retrouver. C'est énorme quand même, hein. Donc
c'est énorme,
ils ont disparu,
ouais.
Complètement, hein. Maintenant, vous voyez, j'ai fait donc en 4 ans à peu près la moitié du territoire. Ce qui m'aide aussi, c'est donc le travail collaboratif avec d'autres internautes, hein, donc des gens qui voient mon site, qui me contactent en disant j'ai recherché les tracés de lignes donc que je peux communiquer. Donc ça a été vrai notamment dans le sud-ouest, là, avec Fabrice Esper, là, qui s'occupe du site Les Trains du Midi, hein, qui est donc un site très intéressant aussi, et donc qui a reconnu pas mal de tracés. Donc il m'a communiqué les fichiers, je les ai mis, hein, donc je mentionne son nom, il n'y a pas de problème. Il y a un internaute belge aussi qui me fait ça, donc je fais un peu un appel aussi au peuple et aux archéologues. S'ils ont des éléments, je suis évidemment tout à fait intéressé. Je crois que le but, c'est effectivement de boucler ce travail le plus vite possible, parce que, comme je le dis, les traces disparaissent de plus en plus vite. Voilà.
Voilà, donc par la rubrique contact, hein, le site fait, internet, archeoferroviaire.free.fr, et puis la rubrique contact. Alors, William me faisait une précision, me demandait, ce n'est donc pas un métier, non, c'est une passion, hein, il y a pas un métier archéologue ferroviaire, ou alors il y a les archéologues, mais voilà, les archéologues, où c'est leur métier, mais qui ne s'intéressent pas seulement au ferroviaire.
Ah, tout à fait, hein, c'est pas du tout lucratif, hein. Bon, de toute façon, le site est gratuit, moi je fais ça parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais j'avais d'ailleurs, pour la petite histoire, informé la vie du rail, hein, donc de mon travail. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de retour. Je pense qu'ils sont plus intéressés par les lignes nouvelles, les TGV, qu'effectivement par ces vestiges du passé, mais bon.
Effectivement.
Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup quand même de gens qui sont ferroviaires ou non d'ailleurs, parce que il y a beaucoup de gens qui voient sur mon site, tiens, il y avait une ligne qui passait au bout de mon champ, et j'ai des réactions comme ça, c'est intéressant quand même.
Ouais. Ouais. Très bien, eh bien écoutez Jean Rendet, on arrive au terme de cette émission à toute vapeur. J'espère que les auditeurs ont passé un agréable moment à l'écoute de cette émission et ont appris plein de choses sur cette archéologie ferroviaire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier Jean Rendet de votre participation pour cette émission à toute vapeur. On va se donner rendez-vous, alors sachez que c'était la dernière émission à toute vapeur de cette année 2016, puisque c'est une émission par mois, hein, donc la prochaine émission, ce sera le premier jeudi du mois de janvier 2017. Ce sera l'occasion de se souhaiter la bonne année, voilà. Et je peux vous dire déjà qu'on parlera, ben là on ira voir un petit peu plus dans le moderne. On va parler notamment des TGV. Les TGV qui existent déjà depuis quelques années maintenant, et puis le développement futur, parce que c'est vrai que jusqu'à présent on était tourné vers le passé, mais on va faire aussi un peu du futur. Et puis sinon, la prochaine émission, À toi les étoiles, l'émission d'astronomie, vous savez, sur IDFM Radio Anguin, eh bien, ce sera le quatrième jeudi du mois de décembre. Donc, soyez au rendez-vous. On parlera justement d'ExoMars, vous savez, qui s'est posé il y a quelques mois sur la planète Mars. Donc, l'émission, ce sera le 22 décembre. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Dans un instant, le journal de Radio France Internationale. Et puis ensuite, ce ne sera pas le journal d'IDFM, mais ce sera une émission spéciale, donc restez à l'écoute. Merci en tout cas à toutes et à tous pour votre écoute, et merci encore à Jean Rendet. Au revoir.
Merci, au revoir.
Bonjour, ici Jean-François Dupaquier. Vous aimez IDFM, votre radio de proximité. Pour une contribution modique, rejoignez-nous en devenant membre bienfaiteur de notre association et participez à la grande aventure de la radio. Renseignements à IDFM, 26 bis rue de Morat, 95 880 Enghien-les-Bains ou 06 03 03 11 40.